Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Allez, c'est parti donc pour la revue de presse avec vous, Benjamin Glaise. Le menu de la discorde hein, à Lyon qui s'affiche évidemment à la une du Progrès.
Bah oui, ça fait beaucoup réagir le menu unique sans viande instauré donc à partir d'aujourd'hui dans les écoles lyonnaises. Le maire écologiste de Lyon a décidé de le mettre en place, dit-il, pour simplifier les précautions sanitaires sur fond d'épidémie. Grégory Doucet qui rappelle que cette mesure avait déjà été mise en place par Gérard Collomb au printemps dernier. Pour autant, le fait que ce soit cette fois-ci un écolo à la manœuvre fait craindre à certains une mesure idéologique, qui ne dirait pas son nom. Les ministres de l'Éducation, de l'Intérieur et surtout de l'Agriculture sont montés au créneau hier contre cette décision. Le nouveau maire avait promis pendant la campagne de systématiser les menus végétariens dans les cantines. Mais précisons bien qu'ici, cette mesure du menu unique sans viande se veut provisoire dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Oui, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité aux environs de 9h. La crise sanitaire justement et le vaccin par le médecin, c'est en une du Populaire du Centre.
Bah oui, on en parlait tout à l'heure, hein. Ça sera possible dès jeudi prochain, provisionné par les pharmacies. Les médecins généralistes volontaires vont pouvoir administrer le vaccin AstraZeneca. Oui. Leurs patients sont concernés les personnes âgées de 50 à 64 ans et souffrant de pathologies sévères. Dans la Haute-Vienne, par exemple, le Populaire du Centre nous dit que 60% des pharmacies et 55% des médecins sont volontaires. Et pour ça, encore faut-il en avoir des médecins, comme le souligne la Dépêche du Midi. Recherche médecins désespérément, c'est le titre à la une. Une étude sur la santé venant de l'association des maires ruraux dénonce l'aggravation des déserts médicaux. Les zones rurales manquent de généralistes.
Ah oui, les images ont fait le tour des médias ces derniers jours. Les feux en montagne qui relancent une polémique, hein, c'est ce qu'écrit l'éclair des Pyrénées.
Oui, plusieurs feux non maîtrisés, notamment au Pays Basque, ont conduit à la mobilisation de nombreux pompiers ce week-end. Certains proviendraient d'éco-buages, cette vieille technique de défrichement par le feu. Bah oui. Du coup, ce week-end, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a publié un arrêté interdisant l'incinération des végétaux sur pierre.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu quand même il y a eu beaucoup d'hectares, 800 hectares, je crois, détruits par les incendies dans le Pays Basque. Et puis, il y a aussi du football à la une de l'Équipe qui commente avec ironie la défaite hier soir du PSG face à Monaco.
Ah bah, le titre, oui, il est plutôt ironique, ça c'est sûr. La Ligue 1, c'est autre chose. Bah, ouais, c'est vrai. 5 jours après sa démonstration contre le Barça en Ligue des Champions, Paris a concédé sa 6e défaite de la saison en Championnat de France face à des Monégasques supérieurs dans tous les compartiments du jeu, résume le quotidien sportif. Défaite donc 2-0 pour le PSG qui a désormais 4 points de retard sur le leader Lille et plus que 2 petits points d'avance sur Monaco, 4e. Et puis du côté de l'OM, Abemus Papam, on verra. En tout cas, ça sera Sampaoli, l'ancien entraîneur sélectionneur du Chili et de l'Argentine à la une de la Provence, puisque c'est lui le futur entraîneur Olympia qui est attendu à Marseille d'ici la fin de semaine.
Ah, on est allé chercher du côté du Chili un entraîneur pour Marseille.
Eh ben oui.
Vous croyez qu'on n'avait pas ça
et
en
je peux
France,
vous dire
quoi.
Qu'il a beaucoup de tempérament, c'est quelqu'un qui a le sang chaud, donc
c'est vrai.
Ça promet.
C'est vrai. Mais bon, j'ai cru comprendre qu'il y a quand même... j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs qui n'avaient pas de job. On aurait peut-être pu aller en
Domènech,
France les chercher.
Pourquoi pas
après l'expérience un aller-retour et puis s'en va. Hein. Vous avez vu à Nantes. Donc avec Camboire, en revanche, qui a réussi, lui, ses débuts. En tout cas, pour conclure quand même sur la Ligue 1, c'est vrai que cette année, on était plus habitués à ça. Il y a du suspense. 4 équipes qui peuvent jouer le titre. Hein. Lille qui est en tête, Lyon, PSG, Monaco, qui sont les 4 équipes détachées. Et ça fait du bien de voir un petit peu de suspense. On poursuit avec Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour Denis.
Bonjour Patrick.
Bon, ça va pas très fort du côté du football. À Nice, en revanche, ça va un petit peu moins bien. 16e, je crois, au classement, après une nouvelle défaite. Mais on va pas parler football avec vous ce matin, mais plus de la situation donc Covid dans les Alpes-Maritimes et une décision qui est attendue dans la matinée. Hein.
Oui, et des habitants des Alpes-Maritimes qui ont les nerfs à vif, et c'est notre titre de une, et c'est vraiment le sentiment qui domine depuis samedi et la visite du ministre de la Santé, Olivier Véran, alors que le taux d'incidence bat des records à Nice, hein, on le rappelle, plus de 700 cas pour 100 000 habitants. Tout le monde a les nerfs à vif, hein, parce qu'on a été prévenu samedi matin que de nouvelles mesures contraignantes nous pendaient au nez, mais depuis, à part des déclarations contradictoires d'élus locaux en désaccord sur les mesures à prendre, on ne voit rien venir. Alors tout semblait pourtant calé depuis samedi en fin de journée avec un scénario précis, hein, un confinement pour les deux week-ends à venir, la fermeture des centres commerciaux encore ouvert et le port du masque obligatoire dans tout le département. Mais au terme du week-end, près de 48 heures après, rien n'a été décidé ou en tout cas confirmé.
Ouais. Pourquoi j'ai cru comprendre qu'il y avait certains élus du département qui disaient « oui, il faut l'adopter pour Nice, mais peut-être pas pour notre commune ». Non, c'est ça un peu le débat.
Oui, c'est ce qui explique la valse hésitation de l'État, qui ici est assimilé à de la désinvolture. Et effectivement, les élus locaux s'écharpent en coulisses, hein, et se sont écharpés tout le week-end. On le sait, Christian Estrosi est très favorable à des mesures fortes, mais les élus de l'ouest du département, notamment le maire d'Antibes, Jean Leonetti, et celui de Cannes, David Listard, les refusent, et ils s'opposent en tout cas à ce que ces mesures concernent l'ensemble du département des Alpes-Maritimes, au-delà de la seule ville de Nice.
Oui, et les habitants, comme vous le dites, hein, Denis Caro, très justement en une donc du journal, ils ont les nerfs à vif. Et comment ils voient les choses ? Est-ce qu'ils sont plutôt favorables d'une façon générale ou pas ?
Non, dans l'ensemble, les habitants sont défavorables à de nouvelles mesures, et en tout cas des mesures qui s'assimileraient, notamment le week-end, à un confinement. Il y a un sentiment d'injustice. Christian Estrosi a essayé, il a été retoqué par le tribunal administratif, d'interdire les locations saisonnières. Ouais, donc les habitants des Alpes-Maritimes estiment qu'ils font les efforts, ils font des concessions, mais que la responsabilité est ailleurs. Et en tout cas, ce qu'ils ne supportent pas, c'est que l'État ne prenne pas aujourd'hui ses responsabilités.
Oui. Merci beaucoup. On va surveiller ça ce matin, Denis Caro. C'est à lire dans Nice ce matin.
Et ce matin, le petit déjeuner de l'actu avec Christine Bouillot, Philippe Bidger, Éric Revel et comme tous les matins, vos appels 0826 300 300.
Oui, et beaucoup de sujets dans l'actualité. On va poursuivre peut-être sur cette menace pour Nice d'être placée sous cloche pour le week-end prochain. Il y a la même chose, il y a eu la même demande qui a été formulée il y a quelques jours en Moselle, on s'en souvient, où il y a eu une flambée du variant britannique. Même chose également du côté de Dunkerque. Est-ce que c'est une bonne solution, une bonne idée selon vous, Christine Bouillot, Philippe Bidger et Éric Revel? Peut-être on va commencer par le régional de l'étape, le patron d'Azur TV, Éric Revel.
Moi je vois les chiffres comme vous. Alors ce qui m'amuse beaucoup, c'est que dans la bataille municipale dont parlait Denis Caro, le directeur de la rédaction de Nice Matin, entre Jean Leonetti d'un côté, David Listin, maire de Cannes du même côté, l'Ouest, et puis Christian Estrosi de l'autre, ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde se répond par tweet interposé. Alors je vois ce matin un tweet de Christian Estrosi qui décrit une situation catastrophique, qui donne un nombre d'hospitalisés depuis ce matin, etc. Lui, il fait pression pour que ce double confinement du week-end, en tout cas sur les deux semaines à venir, ait lieu. Et les maires de l'ouest des Alpes-Maritimes, eux, n'en veulent pas parce qu'ils estiment que la situation est peut-être moins impérieuse. Alors, il y a un enjeu politique quand même, il faut le dire. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est que Christian Estrosi avait pris beaucoup de mesures en amont, vous en souvenez, parfois. En se mettant d'ailleurs à dos d'autres maires des Alpes-Maritimes. Il avait pris beaucoup de mesures en amont en voulant démontrer que la mairie de Nice et la métropole étaient un peu pilotes dans la guerre contre la Covid-19. Aujourd'hui, force est de constater que ça n'a pas suffi, puisque les Alpes-Maritimes et Nice sont sans doute une des villes les plus impactées en France. Il y a une lutte sanitaire, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une lutte politique entre l'Est et l'Ouest du département.
Mais comment on l'explique, ça ? Ce sont toujours les conséquences des fêtes de fin d'année, où il y a eu un petit peu plus de monde à venir, notamment de Monaco, où les restos étaient ouverts, de l'Italie, également de touristes, puisqu'il y a, je crois que les vols d'avion avaient été multipliés par 6 pendant ces fêtes.
Oui, alors vous trouverez peu de gens, un peu de responsables politiques qui vont pointer du doigt la principauté de Monaco, forcément, elle est proche. En revanche, il y a un vrai sujet avec les touristes. Christian Estrosi ne le cesse de le dire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il avait essayé de prendre un arrêté en refusant les locations saisonnières, notamment pour ses vacances, via Airbnb. Arrêté qui n'a pas été validé. Donc, Christian Estrosi le maire de Nice a évidemment beau jeu de dire, voyez, j'ai essayé de prendre des mesures pour endiguer notamment le flux touristique pendant ces vacances, pendant les vacances de Noël et pendant les vacances de février. Bon, ça n'a pas suffi. Le résultat, voilà. Il faut quand même savoir que vous avez des quartiers dans Nice qui dépassent largement les 700. On est parfois à près de 1000 cas sur 100 000. Donc, c'est extrêmement considérable. Il y avait eu des tests qui avaient été faits, vous savez, un peu comme à Marseille, via les eaux usées, peu des tests en amont de ce que va donner la crise sanitaire. Et là, on atteignait des chiffres à Nice, parfois, dans certains quartiers, terribles.
Christine Bouillot et Philippe Bidger. Christine, peut-être sur cette idée de prendre des mesures localisées selon les territoires.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la main du gouvernement a l'air de trembler pour prendre une décision localisée. Oui. Hein, parce que, on va expliquer aux auditeurs, par exemple, hier soir, une conférence de presse était prévue pour les journalistes depuis la préfecture des Alpes-Maritimes pour annoncer ce dont on parle tous ce matin, c'est-à-dire ce confinement localisé uniquement les week-ends. Moi, il y a une interrogation quand même, c'est la découverte que le port du masque n'était pas obligatoire dans tout le département. Donc ça, pour moi, c'est effectivement une nouvelle. Je pensais que c'était obligatoire dans tous les départements sur l'ensemble du territoire français. Donc voilà, ça c'est.
Et non, selon les départements, bien sûr, c'est obligatoire ou pas obligatoire dans la rue, en dehors des espaces publics, bien sûr.
Oui, enfin, il y a quand même la plupart des départements ont tous pris des obligations de port du masque, en tous les cas les élus locaux. Après, on voit que la décision est très difficile à prendre parce que on a entendu ce que disait Eric, c'est-à-dire une guerre entre élus du même département, entre Antibes et Nice, chacun voit midi à sa porte, et puis comment on fait aussi accepter aussi une décision comme celle-là, quand on voit que on l'a refusé pour les départements du nord-est de la France la semaine dernière, quand le maire de Metz a demandé des confinements, et puis on a dit non, on va pas confiner localement, on va faire autrement. Et surtout aussi, dernière question, comment on fait appliquer un confinement localisé les week-ends? Ça, pour moi, c'est une grande interrogation. C'est quoi, on met des airs ou des contrôles à toutes les entrées
d'un département ou d'une ville?
Donc il faut des renforts, il va falloir prendre des mesures assez conséquente. Je veux dire, si on veut empêcher les gens de se déplacer le week-end, il faut les empêcher puisque ce sont les vacances scolaires.
Vous savez, ça c'est quand même fait dans certains pays étrangers. L'Italie toute proche, par exemple, ils l'ont fait où il y avait des mesures qui étaient appliquées localement ou pas très loin de l'Occitanie également. Ça a été le cas du côté de l'Espagne avec certaines décisions. Ouais. Philippe Bidger, comment voyez-vous les choses?
Patrick Roger, d'abord, ne croyez pas que je fuis le débat, j'ai parfois quelques soucis techniques.
D'accord.
je rejoins, je connais évidemment moins bien la région que Christine Bouillot et Eric Revel, mais Eric a parfaitement montré à quel point aujourd'hui il y a l'enjeu sanitaire et l'influence politique qui se télescope. Ça montre aussi ce que je pensais depuis longtemps, et ça n'est pas très original, que la politique du il n'y a qu'à, il suffit d'eux, est un peu courte et limitée, que c'est très difficile, même avec une totale bonne foi, de trouver le miracle idéal, le remède absolu pour lutter contre une épidémie qui parfois conduit la France à envisager des mesures particulières. La France a d'extrêmes difficultés pour envisager une absence de généralité.
Bon, vous bottez un peu en touche, quoi, Philippe. Est-ce que localement, ça a du sens? Au-delà du cas de Nice, de prendre des mesures d'un point de vue local pour lutter contre le Covid, quoi.
Je reviens sur le terrain, mon cher Patrick, et je ne botte pas en touche. Je veux dire que simplement la France a toujours eu du mal pour appliquer des mesures au détail, et je trouve qu'aujourd'hui, ce serait une bonne méthode que d'adapter une politique sanitaire au regard des territoires en question.
Bon, allez, je vois que vous réclamez la parole les uns les autres, mais on va poursuivre dans un instant et on va rebondir sur ce sujet, bien sûr, mais également une décision locale, qui fait beaucoup réagir, c'est celle de la municipalité de Lyon qui interdit les menus avec viande, donc c'est des menus uniques sans viande pendant quelques semaines, en prétextant des soucis d'organisation. C'est plus simple, dit-elle, et donc voilà, il n'y a pas de problème pendant cette semaine jusqu'au mois d'avril. Vous n'êtes pas d'accord visiblement sur les réseaux sociaux. On va en parler ensemble avec vos appels également, comme on va aborder la vaccination. Et nous aurons l'adjoint au maire de Toulouse en charge du commerce et de la restauration avant notre grand invité témoin de 9h15, hein, Cécile.
Oui, elle est essayiste. Aujourd'hui, Lydia Guiraud sera avec nous. L'assimilation, en finir avec ce tabou français aux éditions de l'Observatoire. On en parlera, bien entendu. Vous voulez en parler, vous? Donnez votre avis, 0826 300 300. On vous attend jusqu'à 10h. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h02, merci d'être avec nous. Dans un instant, on reviendra sur, le maire écologiste de Lyon, hein, qui instaure un menu unique sans viande dans les écoles. Juste avant, on a un appel au standard au 0826 300 300 avec Jean-Pierre qui nous appelle de Villeneuve-les-Avignon. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Des appels au 0826 300 300 pour réagir sur l'actualité. Vous, Jean-Pierre, c'est sur le vaccin, hein, plutôt.
Oui,
Oui, allez-y. Oui, oui.
Je voulais donner mon commentaire à propos du fameux passeport ou du
vaccinal,
de vaccination, oui. Qu'il est question d'instaurer.
Oui,
alors,
oui.
Moi, je trouve que c'est quand même assez embêtant, cette histoire.
Oui.
Parce que si je décide de ne pas me faire vacciner, aurais-je accès au restaurant, au cinéma, au concert, parce que il va y avoir automatiquement à ce moment-là une carte. Il va falloir montrer patte blanche pour pouvoir circuler.
Ouais.
Alors ça, je crains ça, parce qu'en fait, c'est une vaccination obligatoire qui est instaurée.
Ouais.
Hein, on le dit pas, mais c'est ça.
Ouais, ouais. Non, mais oui, alors.
En tout cas, fortement conseillé.
Oui. Et vous, vous y êtes défavorable?
Alors, moi, j'ai 80 ans.
Ouais.
Je suis célibataire, je vis seul.
Ouais.
J'hésite entre le Pfizer, entre l'AstraZeneca. On dit que l'AstraZeneca, c'est pas terrible, que pour les personnes âgées, ça n'a pas beaucoup d'effets, et même ça aurait même des effets secondaires.
Mmh.
Alors le Pfizer, bon, c'est bien le Pfizer.
Pfizer et Moderna, oui, absolument, les deux autres, quoi. L'ARN, quoi, hein, c'est ça, oui.
Voilà, alors le Pfizer, il est en circulation sur le centre de vaccination de la commune voisine, c'est-à-dire que c'est à 7-8 kilomètres de chez moi.
Oui.
Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez.
Ouais.
Quand je téléphone à Doctolib ou à droite ou à gauche, on me répond qu'il faut renouveler mon appel parce que c'est complet et que...
Donc vous n'avez toujours pas obtenu de rendez-vous, Jean-Pierre, alors?
Alors, j'ai toujours pas de rendez-vous. Il y a un monsieur ce matin qui est venu dire qu'il avait téléphoné 700 et quelques fois, mais moi, j'ai pas téléphoné 700 fois, j'ai téléphoné une dizaine de fois, mais j'ai toujours pas de rendez-vous.
Oui, on a eu un auditeur, alors je ne sais plus si c'est peut-être pas 700 fois, mais en tout cas, il a dit qu'il avait appelé à nombreuses reprises pendant des semaines et des semaines et qu'il a enfin obtenu un rendez-vous pour le 11 mars pour lui et son épouse, alors qu'ils ont plus de 80 ans tous les deux. Non, mais ça, c'est
voilà.
Oui, merci, hein, Jean-Pierre.
Merci.
C'est moi qui vous remercie parce que vous attirez l'attention sur ce problème-là.
Oui, oui.
Et quand même important.
Non, mais ça, c'est vrai. Merci. Qu'est-ce que vous pensez, tiens, Jean-Pierre, avant de raccrocher,
on a une minute
du menu sans viande à Lyon. On va en parler dans un instant avec l'adjoint au maire de Toulouse. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le maire de Lyon dit que c'est parce qu'il y a un protocole sanitaire qui est plus compliqué, donc là c'est plus simple, il y aura tout de même des protéines.
Oui, non, ça c'est encore de l'idéologie qui vient
d'accord.
prendre place sur la santé des enfants. Moi, j'ai des arrière-petits-enfants. Hein.
Ouais, ouais.
Alors, je pense que je préférerais me priver, moi, d'un steak haché plutôt que de les envoyer dans une cantine pareille.
Voilà. Ouais. Merci,
Jean-Pierre. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup.
Allez, nous sommes avec, justement, Jean-Jacques Bolzan
hein, qui est adjoint au maire de Toulouse en charge du commerce et de la restauration. On revient justement sur ces menus sans viande. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bolzan. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette décision, vous, du maire de Lyon?
Ben, écoutez, moi je trouve que cette décision, comme le disait le monsieur avant, est idéologique. C'est la viande, bien sûr qu'il ne faut pas manger tous les jours, bien sûr qu'on est conscient qu'il faut en manger mieux, moins peut-être, mais mieux, mais il ne faut pas stopper la viande. Tout le monde a le droit de manger ce qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'on est dans un pays libre, dans un pays démocratique, et il y a une tendance chez Europe Écologie Les Verts de vouloir faire circuler tout le monde à vélo et de supprimer la voiture, de vouloir faire manger tout le monde du végétal et de supprimer la viande. Moi je crois qu'il faut, et il y a des diététiciennes dans les cuisines scolaires qui sont là pour équilibrer les repas. On a besoin de la viande, pas tous les jours, deux fois par semaine, sachant aussi que quelquefois pour des enfants, c'est le seul moment où ils mangent des menus équilibrés avec de la viande. Donc tout ça, c'est un écosystème qui fait que la raison invoquée n'est pas la bonne. Qu'il veuille, lui, dire « moi je passe tous les menus végétariens », pourquoi pas, il a été élu, c'est son programme, mais c'est une idiotie sur le plan nutritionnel, et puis sur le non-respect, c'est faire insulte aux éleveurs, qui quand même, nos éleveurs français font de gros efforts pour avoir un élevage de qualité, de travailler sur le bien-être animal, ils travaillent sur la qualité des produits, avec différents labels, les labels sous signe de qualité, vous avez les AOC, vous avez le bleu blanc-cœur, différentes, et je trouve que les portions de viande à la cantine doivent être maintenues pour le respect nutritionnel.
Alors, ce qu'on dit du côté de Lyon, de la mairie, on dit, bon, il y aura toujours des protéines, l'œuf, le poisson, les protéines animales ne sont pas forcément nécessaires tous les jours, et cette décision avait déjà été prise pour des raisons de commodité, parce qu'il faut aller plus vite et que dans les cantines, tout le protocole que l'on connaît, donc il faut aller plus vite, donc ça va être plus simple, menu pour tout le monde, le même, mais sans viande. Vous qui travaillez justement sur le commerce, la restauration et en charge du bien-manger du côté de la mairie de Toulouse, que va-t-il se passer et vous voyez, vous, les choses pour les cantines scolaires de Toulouse? Est-ce que vous allez être obligé d'arriver à un menu unique comme ça pour simplifier les choses?
Non, pas du tout. Je suis effectivement élu en charge des cuisines centrales. Donc, on fait 35 000 repas à la ville de Toulouse. Nous avions, lors de la fin du premier confinement, à la suite du premier confinement, comme on ne savait pas quel est le nombre d'élèves qui allaient arriver, qui allaient venir, on avait pris un menu sans viande pendant quelques jours, le temps de reprendre les effectifs, de savoir qui allait consommer quoi. Pour autant, aujourd'hui, non. Il y a un menu végétarien imposé par la loi Egalim à titre expérimental. Nous allons le maintenir. Et après, ce que nous faisons, mais ça depuis déjà 2015, vous voyez, c'est pas nouveau, on n'a pas attendu que Europe Écologie s'en mêle, nous avons mis en place des menus alternatifs, c'est-à-dire que celui qui veut manger la viande, mange la viande, celui qui veut manger végétarien, peut manger végétarien 3 à 4 fois à la ville de Toulouse. Donc il n'y a pas besoin d'imposer, laissons le libre choix aux gens, laissons le menu, laissons manger ce que veulent les gens, quoi.
Bon,
n'imposeront pas le menu sans viande.
Et d'un point de vue du protocole en fait, sanitaire, est-ce que ça peut simplifier vraiment les choses ou pas? Est-ce que cet argument est recevable?
Pas du tout, non. Pas recevable, pas du tout. Nous, 35 000 repas, je vous dis, c'est une grosse quand même cantine, cuisine centrale. Nous arrivons à faire, puisque les inscriptions sont prises à l'avance, c'est pas du jour au lendemain. Donc il n'y a pas de raison de sacrifier la viande dans les menus des cantines scolaires.
Et est-ce que vous avez certains enfants qui ne consomment de la viande qu'à la cantine pour des raisons budgétaires, notamment familiales, quoi?
Il y a quelques familles, alors là je ne vous donnerai pas le nombre exact, mais il y a quelques enfants bien sûr de milieux défavorisés. Vous savez, quand je lis quelques commentaires suite à différents articles où les gens disent, bah, écoutez, c'est pas grave qu'il ne mange pas la cantine, il mangera de la viande bio le soir en rentrant, ça c'est bon pour les bobos qui ont des moyens financiers pour donner de la qualité à leurs enfants. Et bien souvent, je le répète, souvent la cantine joue un rôle régulateur de nutritionnel pour les enfants.
Est-ce que il y avait eu cette opération qui avait été lancée il y a quelques années, qui est toujours en route, même si là, je pense qu'elle a été suspendue, c'est la semaine du goût, notamment dans les écoles, pour apprendre à bien manger et peut-être à avoir des repas, des repas plus équilibrés, quoi, encore.
Bien sûr, la cantine, là aussi, la cantine, c'est l'apprentissage du goût. Donc, il faut que les enfants, mais même, je dirais même, depuis les crèches, j'ai ma collègue en charge des crèches à la ville de Toulouse, avec des producteurs, fait venir des producteurs locaux et travaille le goût déjà des enfants du plus jeune âge. Vous vous rendez compte que chez les tout petits, les 3 ans, les 2-3 ans, on leur a fait manger des anchois, pour vous dire. Il faut arriver à faire goûter tout aux
pas
enfants.
Pas facile, hein, déjà pour les plus de 30 ans, vous avez du mal.
Non mais plus aussi prend tôt, mieux c'est.
Exactement, voilà, vous avez tout à fait raison, c'est l'apprentissage du goût. Et aujourd'hui, on a des éleveurs, on a des agriculteurs qui font un travail formidable et qui travaillent bien, qui ont un métier en or, si vous voulez, pour nous nourrir. Donc c'est à nous de faire des choix sur si on veut, bien sûr, tout le monde est là pour veut sauver la planète, veut sauver.
Oui, c'est ça, parce que évidemment la production animale demande, on le sait, effectivement un petit peu plus de besoins qu'ailleurs et contribue au réchauffement de la planète. Hein. En tout cas, c'est ce qui est évoqué, quoi.
Il faut amoindrir moins, mais mieux. Et c'est ce qu'on cherche à faire les éleveurs. Ouais. Et puis, on a d'autres moyens pour agir sur le climat. On peut accentuer les circuits courts avec les agriculteurs locaux. Hein. On peut supprimer les produits avec huile de palme, avec tous les éléments contenant des produits additifs. On peut travailler à l'éducation alimentaire des enfants. Je ne dis pas qu'il faille manger tous les jours, c'est pas du tout ça. Ouais. Mais deux repas de viande par semaine, avec de la volaille, enfin, il y a multiples qualités. Et avec la qualité des éleveurs que nous avons en France, vraiment, c'est dommage de priver les enfants de viande. Pour ceux qui veulent manger, bien sûr.
Ouais, restez avec nous. Christine Bouillot et Philippe Bidger sont toujours avec nous pour le petit déjeuner en fait, de l'actualité. Christine, une réaction par rapport justement à cette décision en fait, de Lyon et d'une façon générale hein, sur ce qui se passe dans les cantines, dans les cantines à l'école, quoi.
Oui. Oui, il faut rappeler que la loi qui a été votée impose aux mairies un menu végétarien par semaine. Hein, oui. Ça, c'est le cadre, c'est ce vers quoi les cantines scolaires doivent tendre et aussi d'imposer du bio. Alors, on le sait aussi, là, il y a un autre débat sur le bio, c'est qu'il n'y a pas assez de production bio pour fournir, on va dire, ce qui devient aujourd'hui une vraie tendance alimentaire. L'autre chose, dans le débat de Lyon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, on est purement dans un débat totalement politique, puisqu'on rappelle que Gérard Collomb avait pris cette même mesure quand il était encore aux manettes de la mairie de Lyon, au moment du premier confinement, et ça n'avait posé, et c'est d'ailleurs ce qu'ont soulevé les écologistes et le maire de Lyon aujourd'hui. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'autres mairies se sont positionnées très clairement sur des repas totalement végétariens pour les familles. C'est le cas de Montpellier, le maire socialiste de Montpellier, au 1er janvier, a fait passer qu'il y aurait un repas végétarien proposé par semaine aux enfants.
Et pour par semaine, simplement, quoi. Oui.
Attendez, et pour les familles qui le souhaitent, elles pourront être en végétarien tous les jours de la semaine.
Oui, oui.
Voilà, c'est-à-dire 4 jours ou 5 jours, ça dépend comment fonctionne la cantine scolaire et à quel rythme votre enfant y va. Mais donc, il y a des possibilités qui sont faites. Et cette proposition n'a posé problème à personne. Donc, on voit vraiment bien qu'on est dans une phase politique entre le maire de Lyon, le maire de Grenoble, le maire de Bordeaux, tous ces maires écologistes qui ont raflé des mairies qui intéressaient La République En Marche. Donc c'est très intéressant de voir ce qu'il se passe dans cette confrontation entre, on va dire, La République En Marche, en tous les cas, le gouvernement et ces maires écologistes qui font entendre aujourd'hui des positions, on va dire radicales, mais en tous les cas, qui font causer et qui amènent le débat public sur qu'est-ce qu'on doit manger à l'école.
Oui, procureur Bidger, est-ce qu'on fait un mauvais procès au maire de Lyon ?
Non, pas du tout, Patrick Roger. Je rejoins totalement ce qu'a dit notre auditeur Jean-Pierre, si je me souviens bien,
et puis bien sûr ce que vient de dire
Monsieur Bolzan.
Oui, oui, absolument.
Je suis totalement d'accord avec lui. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait souhaiter aujourd'hui le retour du bon sens à propos des cantines. Il est clair que certains maires écologistes, même si Collomb avait introduit le point.
Ah, il y a une petite coupure de votre micro, mon cher Philippe Bidger. Ah, petite coupure, on ne vous entend plus. Vous avez été censuré. Non mais c'est ça, on a décidé de vous censurer. Conclusion avec vous, Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse. Vous avez entendu ce que disait à l'instant Christine sur ces exemples, ces initiatives qui vont plutôt dans le bon sens, quoi.
Mais bien sûr, mais ce n'est pas une histoire politique. Nous, à la ville de Toulouse, je vous le disais, depuis 2015, on a mis en place des menus alternatifs. Et là, aujourd'hui, les cuisines centrales de la ville de Toulouse font un menu végétarien par jour. Oui. Et les élèves qui veulent manger uniquement végétarien peuvent le faire 3 à 4 fois dans la semaine. Donc, c'est l'alternative, c'est laisser libre choix à l'enfant de manger ce qu'il veut et de ne pas imposer. Parce que ce que fait le maire de Lyon, c'est un peu insinueux, mais c'est un régime pécétarien qu'il met en place, c'est pas végétarien encore, c'est-à-dire pas de consommation de viande, mais il mange des poissons et des fruits de mer et des œufs. Et il va passer après au végétarien. C'est pas le fait d'avoir un menu végétarien par semaine, nous là ça pose aucun souci. C'est le fait d'imposer ça tous les jours à tous les enfants. Et concernant la décision de Gérard Collomb à la fin du premier confinement, ça doit être une décision comme nous, on a prise au début, ce que j'expliquais, pendant les 15 premiers jours, c'est-à-dire le temps de voir, après le premier confinement, combien d'élèves allaient revenir à la cantine, quel type d'élèves, qu'est-ce qu'ils allaient manger, le temps de réorganiser le temps scolaire, enfin le temps cantine. Quoi, hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui fait aujourd'hui, il n'y a aucune raison de passer tout en végétarien. Voilà. Et c'est un affront fait à nos producteurs qui chaque jour font des efforts pour le bien-être animal, pour le respect de la planète. Oui.
Voilà, et en plus de ça, et Jean-Jacques Bolzan, en plus de ça, il faut quand même convaincre les enfants de manger végétarien et de manger des légumes. Et alors là, c'est une autre paire de manches, parce que c'est quand même un peu compliqué. Parce que quand vous, il faut entendre ce que nous disait tout à l'heure le nutritionniste Frédéric Salman qui était avec nous, il voudrait lui aussi entendre les enfants hein, sur ce qui est sur ce qui est proposé. Bon, je sais qu'il y a dans certaines municipalités des questionnaires pour savoir ce qu'ils aiment bien manger, etc. Alors, faut pas toujours les suivre parce que si vous les suivez, vous aurez tous les jours le même menu, hein, bien souvent des pâtes et encore un peu de frites, quoi.
Par exemple, nous tous les mois, on fait les menus pour le mois d'après avec une diététicienne. L'idée qu'on a eue aujourd'hui, à partir du mois prochain, c'est qu'on va faire venir deux ou trois enfants pour faire le menu d'une semaine, par exemple. Ouais. En étant drivé, bien sûr, par une diététicienne. Parce que sinon, on pourrait avoir des aberrations. Mais il faut que les enfants aussi soient là et puis leur expliquer pourquoi on met tel produit, leur faire goûter. Voilà, c'est la découverte. C'est le
goût.
Donc, il faut qu'ils mangent tout type de produits. Après, ils seront assez grands pour se faire une raison. C'est le manger que végétarien ou que de la viande tous les jours. C'est la cantine pour tous.
Ouais.
Et donc, on va manger tous les types de produits.
Et stimuler les palais. Merci beaucoup.
Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse, en charge donc du commerce et de la restauration, en charge du bien manger. Et Christine Bouillot, Philippe Bidger, bien sûr, Eric Revel, et vos appels au 0826-300-300. Gardez-en un petit peu sous la pédale parce que vous allez pouvoir continuer de nous appeler pour le sujet qu'on va traiter.
Oui, parce que dans un instant, l'essayiste et féministe Lydia Guirous sera avec nous. Et elle souhaite réhabiliter l'assimilation dans les politiques d'intégration avec ce livre, Assimilation, en finir avec ce tabou français, chez l'Observatoire. C'est dans
tout
un instant.
Programme.
Tout un programme, exactement. Restez avec nous, on revient dans un instant, 0826 300 300, on vous attend au standard.